Marcher vers le bien-être avec Denis Chagnon.
Chers amis, bonjour. Je m'appelle Denis Chagnon et je vous souhaite la bienvenue à Marcher vers le bien-être. Je vous propose aujourd'hui la poursuite d'une fascinante conversation amorcée lors de l'épisode 10 de notre émission en novembre dernier avec Karine Boivin, professeure chercheuse au département des sciences de l'activité physique à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Nous avions alors exploré les répercussions et certaines adaptations physiques à une marche soutenue, comme par exemple lors de randonnées où l'on court ou de pèlerinage. Au cours des prochaines minutes, nous poussons plus loin notre réflexion à partir d'un chapitre de Karine dans un guide sur les chemins de Compostelle proposé par les éditions Ulysse, en collaboration avec l'Association du Québec à Compostelle. Ce guide unique en son genre a d'ailleurs fait l'objet d'une présentation lors de l'épisode 3 de notre saison et que vous pouvez réécouter sur le site jemarchepartout.com. Les sujets que nous abordons dans les prochaines minutes reflètent le titre du chapitre de Karine, soit « La santé physique, partir du bon pied ». Nous parlerons de santé globale, de l'importance de bien se préparer physiquement à une marche soutenue et du besoin d'adapter sa démarche tout au long du trajet afin de minimiser les douleurs et les blessures en cours de route. En somme, de judicieux conseils pour nous permettre de profiter au maximum d'une aventure qui s'est avérée pour la plupart de celles et ceux qui l'ont entrepris, une expérience de transformation aussi bien physique que spirituelle. Alors Karine, merci beaucoup d'avoir accepté de faire un autre bout de chemin avec nous dans notre préparation pour des randonnées de longue durée.
Merci Denis, c'est un bonheur de venir partager avec vous et avec votre auditoire. Nous souhaitons à travers cette émission que chacune et chacun se sente outillé à initier une première marche de longue durée. Si vous êtes déjà une personne initiée, que vous soyez en mesure de recueillir de l'information utile pour bonifier votre pratique.
Alors Karine, commençons par le commencement. Qu'entendons-nous par marche dans le contexte d'un pèlerinage du genre Compostelle ou de randonnée de longue durée? Quels en sont les paramètres?
En fait, nous parlons d'une marche qui se caractérise par une pratique soutenue. La marche, dans un tel cas, que nous sommes dans un contexte de pèlerinage pédestre, ou dans un contexte de randonnée de longue durée, va occuper la principale activité de la journée, et ce, de façon répétée, sur des jours successifs. Il demeure qu'il y a certaines distinctions qu'on peut faire entre les deux contextes. Dans le cas du pèlerinage de Compostelle, le marcheur évolue entre ville et village dans la majorité des situations et très peu en altitude. La majorité de ce type de marcheurs vont bénéficier de ressources essentielles comme l'hébergement, l'approvisionnement en nourriture solide et liquide. Très peu vont l'en faire en pleine autonomie. Quant au randonneur, de son côté, il va davantage parcourir des chemins en montagne et donc en conditions d'altitude, où plusieurs vont aussi faire leur voyage dans un contexte de pleine autonomie.
Donc, c'est un peu la grande distinction entre les deux. Là.
C'est une distinction importante parce que, justement, aujourd'hui, nous n'allons pas aborder le contexte de l'altitude ni de la pleine autonomie.
Alors, en général, dans quelle mesure le corps est-il sollicité dans un tel contexte?
En fait, c'est un contexte qui demande une quantité substantielle de marche. Il a été documenté par des écrits, par nous et avant nous, que dans un contexte de pèlerinage pédestre, la pratique est estimée à 40 heures par semaine, ce qui représente du travail à temps plein. Et donc, ce qui caractérise le marcheur au long cours, c'est la quantité de distance parcourue, c'est son enjeu principal. Et donc, la quantité de marche qu'il va faire va surpasser les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, et ça, voire de 2 à 4 fois plus. Ce qui implique, pour l'organisme, une sollicitation qui est très accrue sur une base journalière, sur une base hebdomadaire et, dans certains cas, pendant des mois. L'organisme va devoir s'adapter. Idéalement, ce qu'on cherche, c'est qu'il soit amené à s'adapter et non forcé.
Alors que ça soit un peu naturel quand même.
Que ça soit justement, que ça soit naturel, que ça soit selon le rythme de l'organisme et non selon notre propre détermination. Il y a lieu aussi de dire qu'il existe un contrat, je dirais, plus important entre nos habitudes de vie de tous les jours et le contexte de marche soutenue si nous sommes plutôt sédentaires. Dans un tel cas, le degré d'adaptation que l'organisme va avoir à faire est beaucoup plus important pour répondre aux exigences du moment. Et donc, la grande question est de savoir comment doser. Comment doser pour la personne qui s'initie, une personne qui a très peu d'expérience et qui est en train d'apprendre, et comment doser pour la personne accoutumée? Pour la personne accoutumée, c'est d'autres questions qui sont soulevées parce que le corps devient en quelque sorte très spécialisé. Mm-hmm. Et le fait d'être très spécialisé peut le rendre vulnérable, mais d'une autre façon.
De façon générale, quels sont les effets positifs d'une telle pratique?
Mais les effets positifs vont être finalement des signaux corporels qui vont nous montrer que le corps dénote d'une adaptation saine de l'organisme, qui sont des gains associés au fait que la personne est engagée dans une pratique régulière d'activité physique. Par exemple, une amélioration de la condition physique de façon générale. Mm-hmm. On pourrait aussi avoir des bénéfices liés aux gains en termes de force musculaire. Il y a des marcheurs aussi qui rapportent, ça n'a pas été documenté, mais de façon empirique, qui vivent une diminution de leur douleur corporelle et leur douleur articulaire. Donc, des personnes qui, dans la vie de tous les jours, ressentent des douleurs, et là, ils voient qu'il y a une diminution, ils voient qu'il y a une amélioration de leur condition.
Est-ce qu'il y a des données qui démontrent ça?
Tout à fait. En fait, sur ce que je viens de dire, il n'y a pas tout à fait de données, mais il y a des données qui montrent, en fait, les indices ou des adaptations d'une meilleure santé au niveau physiologique, c'est-à-dire des indices d'une meilleure santé cardio-respiratoire. On va en regarder deux ensemble. Il y a une étude qui a été faite il y a 10 ans où des marcheurs ont abordé le chemin Frances en Espagne, on dit le Camino Frances, pendant 12 jours, 281 kilomètres. Et les auteurs ont remarqué une diminution significative du cholestérol total. Si les marcheurs marchent plus longtemps, donc sur le même trajet, une autre étude une année plus tard a montré qu'après 30 jours de marche, soit 758 kilomètres en moyenne, les auteurs ont observé, dans un tel cas, une diminution significative du poids corporel de 4 %, une diminution significative du pourcentage de graisse de 6 %, des diminutions au niveau des tensions artérielles, systoliques et diastoliques, de 8 %.
Ça, c'est une bonne nouvelle.
Ça, ce sont de bonnes nouvelles. Aussi, il y a d'autres évidences scientifiques qui montrent qu'il existe une relation significative entre le nombre de pas par jour et le changement en termes de composition corporelle. Et ça aussi, au-delà de 10 000 pas par jour.
Donc, toutes des bonnes nouvelles. Y a-t-il, en revanche, des effets peut-être indésirables qu'on doit souligner?
Oui, effectivement. Malheureusement, il y a aussi certains effets indésirables. Donc, l'organisme, dans une situation de difficulté à s'adapter, il va avoir une manifestation physique qui va apparaître.
Et ça se traduit comment?
Corporellement, ça se traduirait par la survenue de soucis de santé à même la période de marche ou ça peut apparaître après la période de marche. Et souvent, ce n'est pas après notre première longue expérience à la marche de longue durée, mais ça peut être après le deuxième ou le troisième voyage.
Et quel genre de manifestation? Est-ce qu'on parle des ampoules aux pieds, par exemple, ou c'est peut-être plus sérieux que ça?
Mais les ampoules, on en entend effectivement souvent parler, mais dans la majorité des cas, ça se présente par des soucis au niveau musculo-squelettique. Par exemple, les marcheurs, ce qu'ils vont rapporter, c'est des raideurs, des poussées inflammatoires localisées. Ils vont parler aussi de douleurs qui vont s'apparenter à des périostites et des tendinites. Et donc, ça, c'est les exemples. Ça peut toucher différentes portions corporelles. Ce qui est plus noté, bien sûr, tel qu'on le connaît, c'est genoux et au niveau de la jambe. Il y a des personnes aussi qui vont rapporter des douleurs au niveau des hanches, au niveau du bassin, au niveau du dos. Mais chez le marcheur au long cours, les régions corporelles que nous avons ciblées dans les travaux antérieurs, c'est genoux et la jambe. Et ce type de problème, périostite et tendinite, c'est que le souci, c'est qu'on ne souhaite pas que ça se chronicise, en fait, avec le temps.
Avez-vous une idée des raisons reliées aux effets indésirables, autre que, bien sûr, la sollicitation accrue de l'organisme?
En fait, il y aurait deux hypothèses. Deux hypothèses où, dans un premier temps, l'organisme présente des difficultés à s'adapter qui pourraient être reliées au fait que chez une personne, il y a certaines fragilités à répondre adéquatement à un effort aussi soutenu. D'où l'importance d'initier ce type de projet après avoir pris le temps de faire un certain bilan de son état de santé global. Comme deuxième hypothèse, les difficultés d'adaptation pourraient être dues aussi au fait que la personne, et ça plusieurs ont fait cette petite erreur, de ne pas s'allouer une durée de familiarisation qui est suffisante à une pratique substantielle de la marche.
On est toujours pressé de partir.
On est toujours pressé de se rendre le plus loin possible, rapidement,
oui.
Effectivement. Nos travaux et des travaux antérieurs ont montré que le système musculo-squelettique, parmi les autres systèmes, serait le plus vulnérable. On a tendance à dire « c'est normal, il est le plus sollicité ». Mais ça serait pas tout à fait ça la cause. Une des causes, c'est que ce système a une lenteur à s'adapter. En fait, ce qu'on oublie, c'est que la marche implique des petits chocs répétés. Dans ces petits chocs répétés, le cartilage et les structures au niveau articulaire, ils subissent des impacts. Donc, ça fait des petites lésions au niveau corporel. Aussi, dans la jonction de tendons-os, il y a des petites micro-déchirures qui prennent place. Et ce que l'organisme a besoin, c'est qu'on lui alloue du temps pour s'auto-réparer. Comment on fait? Se donner les soins nécessaires. Donc, il faut, sur une base journalière, si on veut diminuer les poussées inflammatoires. Parce que l'organisme, quand il nous montre de la raideur, ou il nous montre de l'inflammation, ou il nous montre de la chaleur, il est en train de nous parler. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est tout de suite continuer à marcher. Mais en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut écouter ces signaux, il faut ralentir et il faut les soigner. Parce que notre organisme, il est en auto-réparation. Donc, il faut travailler avec lui dans son auto-réparation. C'est des signaux qu'il nous envoie pour éviter que ça s'aggrave. Donc, on les soigne d'abord. Ensuite, il faut changer notre modulation à la marche. On va diminuer nos distances, notre temps de marche par jour, diminuer la cadence, la vitesse. Et aussi, on peut penser à dire, peut-être pour une journée ou deux, je peux prendre le transport de bagages, si c'est possible, pour m'alléger. Pour m'alléger, donc j'ai moins de poids à transporter, ce qui va faciliter aussi notre système musculo-squelettique à récupérer. On peut aussi envisager, sur une portion du trajet, de prendre un transport motorisé. L'idée, c'est de ne jamais oublier qu'il faut donner à notre système musculo-squelettique et à notre organisme le temps d'adaptation suffisant. Les signaux qu'il nous envoie, il faut les écouter et avancer par palier et non d'un coup.
C'est toujours le même message, écouter son corps.
Écouter les signaux le plus rapidement possible, mais les écouter et agir dans le même sens que ce corps.
Toutes ces études, je trouve très intéressantes, mais y a-t-il une documentation pour le commun des mortels, une documentation adéquate, autre que les guides de voyage?
En fait, de la documentation qui nous renseigne sur la quantité de dosage qui serait idéale ou qui nous renseigne sur une progression des qualités physiques du marcheur au long cours qui serait idéale, basée sur des données d'études qu'on appelle des données probantes, ça semble être plutôt inexistant. Par contre, il y a lieu de dire que depuis une dizaine d'années, quelques auteurs ont documenté les changements physiologiques du marcheur pèlerin et du randonneur de longue durée et ont aussi rapporté des troubles de santé. À partir de ces informations, on comprend de mieux en mieux les réactions physiologiques et ces écrits servent de plus en plus de référence pour cerner les éléments clés à une préparation physique adéquate.
Alors, est-ce dire que c'est encore le même message, on s'écoute, et c'est peut-être la meilleure façon de gérer notre randonnée, notre parcours?
Bien, en fait, disons que les marcheurs pèlerins pionniers, c'est ce qu'ils ont fait.
Les marches, oui,
tout à fait.
Parmi, oui.
Donc, les marcheurs pèlerins qui marchent depuis des années et des années ont été obligés de se baser justement sur leur propre expérimentation pour pouvoir faire en sorte de trouver les meilleures réponses de leur organisme. C'est pour ça que les clubs de marche, les associations jacquaires et les associations, par exemple, comme du Québec à Compostelle, ils vont faire des conférences et ils vont avoir un partage de l'expérience. À partir de cette expérience, les personnes qui sont moins habituées peuvent aller chercher de l'information riche. Et les milieux académiques, comme les professeurs d'université qui s'intéressent à la question, c'est intéressant d'être proche de ces milieux de pratique pour finalement échanger avec les marcheurs et être très près de leur expérience.
Dans votre chapitre du livre sur le chemin de Compostelle, vous suggérez que pour minimiser l'apparition de complications durant une randonnée de longue durée, vous conseillez une attitude préventive et si j'ai bien compris, une approche multidimensionnelle qui se résume, j'ai bien vu, en 5 conseils. Et le premier, on peut les étudier tous. Le premier, favoriser l'atteinte du poids santé avant le projet de marche pour les personnes en surpoids, donc maigrir avant de partir.
Effectivement, à titre de marcheuse ou de marcheur, plus je suis léger, plus l'énergie que je déploie va servir à mon déplacement et à avancer. Et moins va être utilisée pour mon soutien. Moins va être utilisé à vaincre la résistance que j'ai à me déplacer, c'est-à-dire mon inertie corporelle.
Alors, le poids, c'est aussi, vous l'avez mentionné tout à l'heure, dans le sac. Donc, et on en a parlé un peu à l'émission auparavant, un sac léger.
Plus le sac est léger, plus nous allons gagner justement en agilité. On diminue aussi le risque que le sac contribue à nous blesser. Et si nous sommes accélérés durant une chute qui contribue à nous faire chuter encore plus rapidement.
Et un sac trop lourd, c'est plus difficile pour le bassin, je pense. Hein? C'est là où le poids du sac repose.
Le problème, c'est plus le sac il est lourd, plus il va faire en sorte que nous allons utiliser notre tronc et notre bassin différemment. Nous allons avoir tendance à les rigidifier pour soutenir la charge. Alors, c'est pas ça qu'on veut. Le bassin, il est le carrefour entre les membres inférieurs et le tronc. Et ce qu'on veut, c'est une mobilité, une certaine mobilité. On veut une petite rotation du tronc. Donc, un sac trop lourd va faire en sorte que ça va inhiber ce mouvement naturel.
Alors, troisième conseil, ajuster le volume, distance et durée journalière et l'intensité de marche, la vitesse, en connaissant et en respectant ses capacités physiques. C'est du gros bon sens.
Non, c'est du gros bon sens, mais c'est très difficile à faire. Pourquoi? Parce que nous savons souvent après coup si nous venons de dépasser nos limites. Donc, un peu plus tard dans l'émission, nous allons donner des moyens concrets pour bien connaître sa zone de confort ainsi que les limites, parce que c'est difficile à doser judicieusement.
Excellent. Alors, quatrième conseil, savoir utiliser adéquatement son équipement.
Aujourd'hui, ce point, nous allons l'aborder que de façon succincte, c'est-à-dire que nous allons plutôt proposer, à travers notre préparation physique, c'est quand qu'on inclut l'équipement.
Excellent. Alors, cinquième conseil, accorder une importance à la qualité du pas de marche, bien sûr, ainsi qu'à la récupération, et ce, sur une base journalière. Ça, c'est intéressant.
En marchant, marcher, c'est pas juste d'aller loin et rapidement. En marchant, nous savons que nous progressons, nous cheminons, mais nous pouvons aussi récupérer, nous pouvons s'étirer, nous pouvons finalement, durant la marche, prendre le temps de justement recevoir des signaux de nos genoux, de nos hanches, de nos pieds pour adapter notre marche à ce que nous ressentons. Donc, nous pouvons faire tout ça en même temps.
Alors, nous prenons, Karine, une courte pause musicale et nous revenons parler de progression dans la préparation corporelle avant une longue marche. Alors, nous sommes toujours en compagnie de Karine Boivin. Karine, nous entrons maintenant dans le vif du sujet, soit la préparation physique. À cet égard, vous mettez de l'avant deux volets. Une phase consacrée à la santé globale, suivie d'une phase consacrée à la familiarisation, à la marche soutenue et à l'équipement. Qu'entendez-vous par santé globale?
En fait, peu importe notre condition de santé. L'idée, c'est de s'assurer que nous sommes à faible risque de se fragiliser en contexte de marche soutenue. Et ça, bien avant l'amorce du projet. Bien entendu, ce conseil est davantage important si nous partons loin de chez soi ou à l'international, où ce qu'on veut, c'est éviter les soucis physiques et tous les enjeux que ça peut occasionner, tels que les soucis monétaires également.
J'imagine que ça varie d'une personne à l'autre aussi.
Tout à fait. L'importance que l'on va accorder à prioriser la santé globale avant de partir va dépendre de notre âge et de notre condition de santé. Dans le cadre du guide Ulysse, nous l'avons mis en priorité. Pourquoi? Parce que c'est important quand on va arriver à notre phase de préparation physique d'être bien et d'avoir une certaine assurance par rapport à nos capacités.
Comment ça s'applique alors?
Donc, la façon de prioriser la santé globale, c'est simplement de prendre rendez-vous avec notre médecin généraliste qui va nous référer vers les spécialistes adéquats le plus tôt possible, donc environ 8 à 12 mois avant l'amorce du projet. Et ça, ça a deux objectifs. Dans un premier temps, avoir le temps de planifier les allers-retours des rendez-vous de santé. Et le deuxième point, c'est finalement de pouvoir s'assurer le plus possible qu'on atteint une condition de santé considérée stable de façon médicale environ 4 mois avant de partir pour avoir du temps pour dans notre préparation physique d'être bien et de pouvoir bien la faire.
Alors, je crois que vous avez également ici quelques recommandations. Bon, j'en ai vu 3 dans votre livre.
Effectivement. Comme première recommandation, elle va dans la poursuite de ce que nous venons tout juste de dire. C'est-à-dire que peu importe notre historique de santé et de notre état, s'assurer que sa condition ne soit pas sujette à des fluctuations qui pourraient compromettre notre santé durant la réalisation du projet ou même le projet en soi. Donc, on va éviter d'avoir un état non contrôlé au niveau de la tension artérielle, en termes d'angine, en termes de diabète, en termes de problèmes d'équilibre, de problèmes visuels ou de toute blessure physique récente qui serait susceptible de s'aggraver pendant le projet de marche soutenue.
Ou peut-être, comme vous dites, une blessure, une intervention chirurgicale. En fait, il faut faire un examen assez approfondi de ça. Là.
Effectivement. Donc là, on arrive, Denis, à la deuxième recommandation. Ou la deuxième recommandation, ça va être en lien avec nos suivis de nature orthopédique ou podiatrique. Donc, si on a des suivis en cours ou des suivis qui pourraient être devant nous parce qu'on se rend compte qu'on a des petits soucis, ça peut être à la suite d'une chirurgie, ça peut être parce qu'on a l'impression qu'on aurait besoin d'une correction. Quand je parle de correction, c'est une semelle plantaire, par exemple. Une chirurgie, ça pourrait être après avoir eu une prothèse. Ou une correction aussi, ça pourrait être une orthèse. Une orthèse, c'est ce qu'on pose autour d'un membre, mais à l'extérieur. Que ce soit au niveau de la hanche, que ce soit au niveau du genou, que ce soit au niveau du pied, ce que nous recommandons, c'est que la prise en charge par les professionnels de la santé soit plutôt complétée 6 à 8 mois avant le départ. Pourquoi un si long délai? On peut avoir l'impression que c'est long. C'est parce que notre corps va avoir besoin de s'habituer à cette nouvelle condition. Mmh. Et quand on va faire notre préparation physique, on va devoir s'habituer justement à la gérer aussi. Puis on va réaliser qu'il y a divers ajustements à faire et peut-être qu'on aura besoin de consulter les professionnels de la santé. Et donc, ces allers-retours-là et tous ces petits ajustements pour que la marche soit confortable, ça prend un certain temps.
Alors, il faut actualiser notre évaluation, si je comprends bien, parce qu'on se dit des fois, « Oh non, ça va, j'ai fait telle chose il y a quelques mois, je suis en très bonne forme, ça va, j'y vais. »
Donc, effectivement, donc là, on parle de la troisième recommandation, qui dit en fait que peu importe que nous soyons une personne qui sommes à notre initiation à la marche au long cours ou que nous soyons une personne déjà familiarisée, Avant un nouveau projet, on devrait poser un regard actualisé. Donc, le regard actualisé, il y a une personne qui peut dire « Ah, moi, je suis une personne habituée. Donc, ça va, je vais partir comme vous venez de dire. » Mais en fait, dans l'année qui vient de se passer, il y a toutes sortes de choses qui peuvent être arrivées. Un nouveau diagnostic, un deuil, un niveau de sédentarité beaucoup plus important que d'habitude, une prise de poids corporel. Donc, des fois, on n'a pas tout à fait la forme qu'on souhaiterait avoir et il vaut mieux, finalement, s'actualiser et faire le point avant de partir pour que notre projet soit agréable et que nous soyons rassurés à cet effet-là.
On ne peut pas toujours regarder dans le miroir, disons.
Effectivement.
Alors, Karine, nous voilà donc bien informés quant à notre état de santé. Nous avons pris toutes les précautions nécessaires pour éviter les complications. Nous passons à la phase que vous appelez familiarisation à la marche soutenue. C'est quoi?
Donc, ça va être la phase, justement, où on va aborder notre préparation physique qui est vraiment reliée à la marche. Sur une base hebdomadaire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'accoutumer progressivement à la marche soutenue. Et on va faire ça selon diverses phases que nous allons découvrir ensemble. On va mettre une importance, juste avant l'amorce du projet, au fait qu'on va faire une phase de maintien de nos acquis et de récupération corporelle.
Alors, allez-y.
Allons-y, Denis, préparons-nous.
Allons-y pour la première fois, c'est-à-dire l'accoutumance, c'est ça?
Tout à fait, l'accoutumance. Donc, peu importe nos habitudes du quotidien, on va s'exposer graduellement à des périodes de marche qui vont devenir de plus en plus importantes. Et on va faire ça de façon douce. Donc, on va augmenter leur durée ainsi que leur fréquence hebdomadaire. Et ça, sur une période d'environ 70 % de la période disponible que nous avons. Je vais donner quelques exemples. Si nous avons 8 mois devant nous, on va augmenter notre exposition à la marche sur environ les 6 premiers mois. Si nous avons 4 mois devant nous, on va l'augmenter sur environ 3 mois et une semaine pour se donner un peu de temps pour récupérer à la fin. Si nous avons 2 mois, là c'est un peu plus court, bien nous allons augmenter pendant un mois et demi environ, et se donner aussi un délai à la fin pour la récupération.
Alors, ça veut dire quoi en termes de durée, de minutes par jour?
Donc, bien sûr, la gradation, elle est personnelle. Mais il demeure que ce qu'on va suggérer, c'est de partir de notre habitude et d'augmenter environ dans nos séances 15 à 20 minutes nos séances à chaque semaine. Donc, chaque semaine, on va ajouter 15 à 20 minutes. Donc, notre gradation va passer, je donne un exemple, par exemple, de 45 minutes à 180 minutes. On n'a pas besoin de marcher toute la journée. Notre fréquence hebdomadaire peut passer de 2 à 3 fois par semaine, selon nos habitudes, et va tendre plus vers 5 fois par semaine. Donc, on cherche de plus en plus à marcher presque à tous les jours, parce que le marcheur pèlerin marche à tous les jours. Il faut donc créer tranquillement l'habitude de marcher. Ensuite, une fois par semaine, ce qui est proposé, c'est de faire une journée où on va s'engager dans la marche comme activité principale. Donc là, on va marcher 5 à 6 heures par jour, selon finalement sa progression.
Et une chose que je ne fais pas, l'hydratation. J'ai de la difficulté à boire.
Et pourquoi?
De l'eau, bien sûr. Je n'ai pas le goût. Ça ne me vient pas à l'idée. Je marche pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures et tout va bien. Et je ne ressens pas le besoin de boire. C'est important quand même.
Et tout à fait. Puis il y a beaucoup de personnes qui font comme vous. Énormément. Tout à fait. Alors, en fait, il reste que même si vous n'avez pas le goût de boire, Denis, je vous assure que l'hydratation est primordiale.
Je le sais.
Un indicateur, par contre, pour savoir si vous êtes bien hydraté, c'est le suivant, c'est l'urine. L'urine est le meilleur indicateur de notre niveau d'hydratation. Si elle est pâle, donc jaune pâle, et que la fréquence, elle est normale, eh bien, ça nous donne un signe qu'on est assez bien hydraté. Ce qu'on va conseiller, c'est de boire le plus possible de façon continue. Et le fait de boire, je dirais, abondamment, c'est aussi important dans la préparation physique pour savoir comment réagissent nos vêtements. Parce qu'on va connaître mieux son taux de sudation, puis on va pouvoir savoir finalement si nos vêtements, une fois qu'ils sont mouillés, s'ils demeurent agréables, s'ils sèchent dans des délais qui sont raisonnables, ainsi de suite.
Très intéressant, très intéressant. On en parlera plus tard. Mais écoutez, quand on parle d'accoutumance, toujours dans votre chapitre, vous parlez d'une expression à laquelle nous sommes tous habitués, là, c'est la fameuse zone de confort.
Ah oui, que nous soyons à nos premières expériences à la marche au long cours ou que nous soyons une personne expérimentée, cette phase-là, elle est toujours intéressante, je trouve. C'est l'intérêt de se découvrir. Et si nous sommes une personne déjà expérimentée, c'est l'intérêt de se redécouvrir à titre de marcheur. À quoi ça consiste, en fait? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va conscientiser notre pratique de la marche. On va conscientiser notre zone de confort. Donc, être attentif à c'est quoi pour moi la durée de marche en continu qui est confortable. Est-ce 1 heure et demie, est-ce 2 heures, ou ça peut être en termes de kilomètres. Donc, de savoir ça. Pourquoi c'est utile de savoir ça? Parce que des fois, quand on est dans un parcours, il y a une halte, on sait que l'autre halte est à 4 kilomètres plus loin, 5 kilomètres plus loin. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Donc, si on se connaît, on va savoir, en fait, si c'est une bonne ou une mauvaise chose de continuer.
Est-ce qu'il faut prendre des pauses?
Ah oui, il faut prendre des pauses.
C'est important?
Ah oui, c'est important de prendre des pauses. Et là, encore là, le rythme des pauses va être différent d'une personne à l'autre. Et encore là, c'est important de connaître ses besoins en pause, connaître ses besoins en termes de repos. Donc, dans ses besoins en pause, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait durant la pause aussi. Parce qu'il y a peut-être un besoin d'enlever les chaussures, hein. Il y a peut-être un besoin d'assécher les chaussettes. Hein. Mm-hmm. Là, je vais parler de mon expérience personnelle. Mm-hmm. Moi, j'ai besoin de changer mes chaussettes 2 à 3 fois par jour et je dois les changer.
Ah oui, vraiment?
Ah, vraiment? Parce que j'ai une peau qui l'exige et j'ai un taux de sudation qui l'exige. Donc, c'est des aspects qu'il faut savoir. Mon besoin de repos, c'est-à-dire mon besoin de sieste aussi. Donc, la sieste nous permet de récupérer en fin de journée. J'aimerais parler d'un concept qui est très important. C'est la vitesse de croisière confortable.
Oui.
Donc, quand on parle de vitesse de croisière confortable, on parle d'une vitesse de marche que nous sommes capables de garder pendant longtemps. Donc, à cet effet-là, on n'est pas en train de dire « moi, je marche en moyenne à 3,8 km/h », par exemple. On est plutôt en train de dire « à l'intérieur de mon continuum de vitesse de marche, à partir de quand je suis ou je ne suis plus dans ma zone de confort ». C'est ça qui est intéressant. Donc, que je prenne une marche qui soit plus lente ou une marche plus rapide, de savoir quand on reste dans notre zone de confort et d'avoir une idée quand on en sort. Donc, après, ça nous permet d'explorer finalement tout ce potentiel de notre zone de confort et savoir, être conscient quand on est en train de pousser, où on est en train de pousser, puis quand on est dans une marche de récupération, de savoir l'apprécier.
Donc, c'est d'être conscient de ses limites.
C'est d'être conscient de son confort et donc de ses limites.
Mm-hmm.
Donc, en fait, l'idée aussi, c'est l'équipement. L'équipement, ce qui est intéressant, c'est que si je définis ma zone de confort et mes besoins, quand je vais aller acheter mon équipement ou vérifier si mon équipement est encore à jour, ça se peut que je réalise que mes besoins ne sont plus les mêmes. Donc, définir sa zone de confort, ça permet de définir ses besoins en termes d'équipement également. Donc, on réalise qui on est comme marcheur. On réalise, par exemple, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi, je dois partir sur les chemins avec 8 paires de chaussettes. Donc, ceux qui partent avec 3 paires, je serais très triste, ça ne fonctionnerait pas. Alors, vous voyez, donc, il y a toutes sortes de petits ajustements comme ça. Donc, définir sa zone de confort et définir qui nous sommes comme marcheur nous permet de bien définir son équipement.
Alors, mieux on se connaît, mieux on peut justement vérifier son équipement et tous les autres paramètres de la marche. Là.
Et oui, et plus on est précis quand on arrive en magasin et on demande conseil, plus on est précis et là, plus on va avoir des réponses qui sont propres à nos besoins.
Et là, on peut faire appel à des spécialistes dans le domaine de la santé aussi pour nous aider justement à trouver nos limites et notre zone de confort.
Effectivement, en fait, plus on connaît notre zone de confort, plus, comme vous venez de dire, on connaît nos limites, hein? Parce que nos limites, c'est finalement dès qu'on se sent un peu à l'extérieur de cette zone. Alors, dans notre préparation physique, C'est intéressant aussi de s'entourer des professionnels de la santé dont on a besoin pour les soins de pied, pour la massothérapie, pour la kinésiologie, où le kinésiologue peut nous aider notamment sur le travail de notre équilibre, sur avoir une meilleure condition physique de façon générale. Le physiothérapeute peut nous aider aussi à soigner des soucis physiques, des blessures qui sont résiduelles. On peut aller rencontrer aussi des personnes en chiropratie, justement, pour des douleurs cervicales, lombaires, au niveau du bassin. Donc, d'avoir des personnes ressources qui aussi, ils vont être intéressés par notre projet, puis ils vont savoir nous guider à la bonne réussite de notre projet.
Ils peuvent nous suivre d'une marche à l'autre.
Ils peuvent nous suivre d'une marche à l'autre, effectivement.
Alors, une fois la zone de confort bien assimilée, c'est ce qu'on a fait, j'imagine que le temps est venu d'expérimenter un peu, là, de perfectionner sa démarche avant le grand départ.
Oui, le grand plaisir, c'est de marcher dans diverses circonstances. Donc, on parlait tout à l'heure de zone de confort. Notre zone de confort, elle est perturbée quand on change de contexte. Donc, si on marche sur le bitume, sur le plat, en pente, en sentier plus accidenté, sous la pluie, bien sûr, notre zone de confort va être perturbée. Et donc, c'est intéressant de retrouver à travers tous ces contextes, c'est quoi mes stratégies personnelles qui vont faire que je vais retrouver un état de bien-être. Et donc, c'est pas facile de marcher longtemps sur le plat, comme c'est pas facile non plus de marcher longtemps sur le béton ou le bitume. Alors, il faut ajuster le pas et savoir comment l'ajuster. Il va falloir varier notre façon de marcher.
Pour rester dans le bien-être, justement, pour être bien.
Pour être bien, justement. Et on peut aller chercher différentes intentions à la marche. Quand on se pratique, on peut dire, « Bon, maintenant, je vais adopter un pas de marche qui va soulager mes douleurs, par exemple, mes douleurs aux genoux. Je vais adopter un pas de marche qui va finalement me mettre dans un état paisible. » Donc, mettre des intentions dans notre marche et voir comment notre corps va répondre.
Alors, j'imagine qu'on se pratique, bien sûr. Est-ce qu'on le fait avec ou sans le sac?
Ah, ça, c'est une bonne question, parce qu'en fait, ce que nous conseillons, c'est de d'abord définir notre zone de confort sans le sac à dos. Pourquoi? Pour connaître comment elle est ma démarche de façon naturelle. Et ça nous permet d'avoir une référence que quand je vais ajouter le sac à dos, je vais pouvoir justement avoir une meilleure idée de l'effet du sac sur moi. Et donc, quand j'ajoute le sac à dos, je ne l'ajoute pas dans un premier temps avec sa pleine charge avec laquelle je pense partir, mais je vais le lester graduellement et je peux faire ça sur 3 semaines à 1 mois. Pour les femmes, je recommande de d'abord partir avec une charge d'environ 4 kg et les hommes plus 5 kg et ensuite, à tous les 7 à 10 jours, on va le lester de 1 kg de plus jusqu'à temps qu'on arrive finalement à la charge qu'on pense apporter avec nous. Et dans ce sens, c'est aussi une façon de savoir quand la charge elle devient trop importante. Parce que, si on perd notre zone de confort, on va savoir finalement que le sac est peut-être trop lourd pour nous. Et là, il va falloir faire des choix difficiles dans ce qu'on apporte.
Ça peut être très difficile, effectivement. Bon, alors, il me semble qu'on est bien préparé. Mais vous suggérez de ne pas se lancer tout de suite, là. Il faut peut-être mettre ça à l'essai un peu.
Effectivement, environ 2 mois, voire 3 mois avant de partir, c'est préférable de vivre une expérience de marche soutenue sur 3 à 4 jours consécutifs. Donc, l'idée ici, c'est d'être engagé toute la journée, donc la marche comme activité principale, sur plusieurs jours successifs. Le but, c'est de faire le point. Le but, c'est de s'ajuster. Et ça, c'est surtout important pour les personnes qui s'initient. Parce que les personnes qui sont habituées, ils vont avoir moins besoin de ça, mais les personnes qui s'initient, c'est vraiment un conseil qui est intéressant. Dans ce séjour, l'idée, c'est que je n'ai pas besoin nécessairement de changer de lieu d'hébergement à chaque soir. Non, ce dont j'ai besoin, c'est d'être engagé toute la journée dans la marche pour apprendre à bien la gérer.
Alors, est-ce qu'il y a des options qui s'offrent aux gens pour ce genre d'essai, pour ainsi dire?
Bien, en fait, si nous sommes d'ici, donc nous sommes Québécois, Québécoises, en fait, on peut aller sur le site de Marche Autrement. Il y a la suggestion de belles randonnées, toutes sortes de belles randonnées. Il y a aussi des chemins, je dirais, de Compostelle québécois. On a nos magnifiques parcs nationaux du Québec, le Sentier des Appalaches. On a aussi les randonnées dans les Montagnes Blanches. annuellement, il faut savoir que l'Association du Québec à Compostelle, je pense que c'est la région de Montréal, organise au printemps une simulation d'un séjour de, je pense, c'est 3 jours de marche, hein, qui est similaire à ce qu'on vivrait dans le cadre d'un chemin de Compostelle où les marcheurs pèlerins vont changer de lieu à chaque jour.
Et c'est très important pour s'habituer à cette routine.
Oui, en fait, c'est que ça nous permet vraiment de voir nos limites et nos difficultés. Et comme on disait tout à l'heure, c'est une question de gestion. C'est comme si on travaillait 40 heures par semaine à marcher. Donc, apprendre à bien le gérer.
Alors, Karim, nous y sommes presque. Un dernier élément, vous suggérez maintenir ses acquis et favoriser la récupération corporelle. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire, en fait, que une petite période avant de partir, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va arrêter de vouloir accumuler de la distance et des kilomètres. On va plutôt faire confiance à nos acquis et se mettre dans une période, je dirais, de maintien et de repos.
Alors, qu'est-ce qu'il faut prioriser pendant cette période, vous pensez?
Donc, en fait, justement, on va faire confiance à nos acquis antérieurs. On va diminuer notre volume de marche sur les 14 jours avant de partir. On va s'assurer de faire les derniers ajustements sur notre équipement. On soigne nos maux physiques. Ça se peut qu'il y ait des maux physiques qui sont apparus durant notre préparation physique. Donc, on soigne tout ça. On met aussi l'accent sur la souplesse corporelle parce que la marche, on dit, oui, ça engage tout le corps. C'est sûr que ça engage tout le corps, mais ça a aussi ses limitations. Dans ce sens, la marche ne fait pas en sorte que nos articulations vont en pleine amplitude de mouvement. Par exemple, nos chevilles ne vont pas en pleine amplitude de mouvement, nos genoux non plus, nos hanches non plus. Alors, c'est important d'aller faire des exercices, par exemple, le yoga, le pilates, des étirements, ça peut être des exercices en piscine, où on va aller explorer les amplitudes de mouvement et aussi les autres types de mouvements, les mouvements en rotation. Les hanches ont besoin de beaucoup de mouvements en rotation parce que dans la marche, on est toujours en train de faire des mouvements, je dirais, avant-arrière, ce qu'on appelle la flexion-extension. Mais ça ne va pas chercher finalement les mouvements multidirectionnels que le corps a besoin de garder réveillés également. Aussi, on peut prendre le temps dans cette période justement de découvrir à la marche toutes sortes de petits moyens de récupération qui nous fait du bien.
Et à soi-même, en fait, on les connaît, là, ce sont nos propres moyens de récupération.
Tout à fait, mais il faut les découvrir. Pour les découvrir, il faut se donner le temps de les découvrir.
Voilà. Il faut passer à l'action. Alors, Karim, cela, ça me semble beaucoup de travail, ce dont nous avons parlé pendant les dernières 30 ou 40 minutes. J'imagine que bon nombre de marcheurs ne pousse pas la préparation jusque-là. Est-ce que c'est une erreur?
Ce n'est pas une erreur. Il y a une autre façon de le voir, ça. Ça peut être vu comme du travail ou un bonheur. Parce que comme nous nous engageons avant de partir déjà, eh bien, nous sommes déjà un peu dans le voyage. Mais vous savez, en fait, Denis, une personne comme moi, le rôle est de donner des recommandations et des conseils. Donc, on en donne. Ensuite, c'est à chacun et à chacune de prendre ce qui leur semble utile, mais il ne faudrait pas penser que c'est une erreur si notre préparation physique, elle est beaucoup plus petite ou beaucoup plus succincte.
Alors, il s'agit d'être conscient de nos besoins et de la période d'adaptation dont nous croyons avoir besoin.
En fait, c'est ce qui est le plus important, c'est de conscientiser le fait que la marche soutenue demande une période d'adaptation. On peut donc faire de son projet de marche au long cours un projet d'adaptation. Des fois, les personnes sont obligées de partir dans des circonstances après un deuil important, après un divorce, après une maladie importante.
Donc, rapidement.
Et ils ne vont pas passer par toutes ces étapes. Donc, de conscientiser seulement l'importance que le fait que la marche soutenue demande une période d'adaptation. On va choisir des étapes faciles en début de projet. On va choisir finalement un parcours avec des hébergements plus rapprochés. Donc, c'est des solutions pour faciliter le départ. On peut se prévoir beaucoup plus de jours que nécessaire pour ne pas se sentir obligé d'avancer vers tout de suite vers un autre site, mais prendre son temps, de le faire de façon plus contemplative peut-être.
Alors, parlant de contemplatif, nous prenons une autre pause et nous revenons un tout petit peu plus tard avec la gestion pendant le parcours, le début, l'intervalle, vulnérabilité à la fin du projet. Voilà, toujours de la difficulté avec ce mot. On revient dans quelques minutes. Alors, nous sommes toujours en compagnie de Karine Boivin. Nous parlons de préparation à la marche au long cours et nous voici à la ligne de départ. Nous nous sommes bien préparés physiquement et mentalement. Notre équipement est à point et de surcroît, le temps est magnifique. Alors, faut-il demeurer alerte tout au long du trajet et bien gérer notre temps et nos ressources? C'est la question.
Alors, effectivement, Denis, ce qu'il faut se rappeler, on le dit juste avant, nous allons marcher environ 40 heures semaine. Mm-hmm. Donc, ce qui représente 2 à 3 fois plus peut-être que notre pratique. Et même si on s'est préparé. La première semaine, ce qui va être suggéré, c'est une progression douce, autant dans la vitesse, autant dans la quantité de marche par jour. À cet effet-là, il n'y a pas de données certaines, mais il y a quand même des observations qui montrent que les marcheurs ont tendance à se blesser entre la 4e et la 10e journée habituellement. Donc, commençons doucement. Quand on a passé la 10e journée, on dirait que le corps, il a pris ses habitudes.
Avez-vous une recommandation particulière à propos de la gestion de la marche par intervalle?
Donc, en fait, je dirais que tout au cours de la journée, il faut nuancer sa façon de marcher. À cet effet-là, on va faire en sorte qu'on devrait se calquer sur qu'est-ce que la journée nous amène. Dans ce sens-là, on sait que le matin, le temps, il est clément. Donc, ce qui est proposé, c'est faire la plus grande distance de marche, donc augmenter progressivement sa vitesse de marche en matinée. Aller chercher, si on veut, la distance en matinée. On sait qu'en pente, il va falloir ralentir, surtout dans les descentes. Et donc, dans la question de la gestion de la marche par intervalle, c'est-à-dire la cadence du pas, on a souvent tendance à penser que plus je marche vite, mieux que c'est. Mais ce n'est pas tout à fait ça, en fait. L'organisme, il va aller chercher des bénéfices à une marche plus lente et d'autres bénéfices à une marche rapide. La marche plus lente, par exemple, elle diminue notre quantité de transpiration. Elle nous permet de travailler notre équilibre. Elle nous permet de travailler notre récupération et notre détente. Aussi, il y a une étude qui a montré, il y a 10 ans, que sur 12 jours de marche, donc 281 km, quand ils ont comparé entre des marcheurs marchant confortable, rapide, confortable, lent, ils ont observé que les marcheurs chez qui il y avait la plus grande diminution du taux de cholestérol étaient les marcheurs confortables, lents. Il a des bénéfices physiologiques à marcher lentement dans un contexte soutenu, parce qu'on a quand même l'avantage de la quantité de marche. Donc, vaut mieux mettre des plages dans la journée où on va marcher lentement, surtout en après-midi, pour favoriser la récupération pour le jour suivant.
Alors, nous avons complété un très beau compostel ou un très beau pèlerinage. Nous arrivons à la fin. Quelle attitude on doit avoir lorsqu'on arrive à l'église Saint-Jacques-de-Compostelle?
Bon, qu'on arrive à Saint-Jacques-de-Compostelle ou ailleurs. Vous êtes arrivé à Saint-Jacques-de-Compostelle, si j'ai bien compris. Alors, en fait, peu importe où on arrive, l'idée, c'est qu'on est, on est excité à la fin. Puis, naturellement, ce qu'on veut faire, c'est aller rapidement. Mais on oublie notre système immunitaire. Lui, il n'a pas le goût qu'on aille rapidement. Parce que lui, il est peut-être fatigué. Ce système immunitaire a travailler à faire beaucoup d'ajustements et d'adaptations tout au long. Notre sommeil a changé, le type de nourriture, la température extérieure. Notre corps est toujours en auto-réparation tissulaire et aussi il y a des insectes à l'extérieur. Mm-hmm. Et donc, on a des micro-organismes avec lesquels on est en contact. Donc, il y a des observations qui montrent qu'il y a des personnes qui malheureusement font un très bon parcours et ils vont se blesser en fin de parcours. Il y a aussi des, certaines observations qui montrent que les personnes reviennent avec un rhume, une grippe, mm-hmm. une pneumonie. Donc, il y a des atteintes virales qui peuvent prendre place parce que le système immunitaire est fatigué. Donc, au contraire, ralentir, adopter une attitude de marge de récupération. Dans les derniers milles, savourez grandement votre arrivée à la place.
Et écouter son corps, encore une fois.
Toujours.
Comment
toujours.
Ça se passe là-dedans, là? Alors, ben voilà, nous avons complété notre parcours. Mais je vous entends, ce n'est pas terminé. Il nous reste toujours quelque chose à faire, non?
Effectivement. Au retour, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons continuer dans cette idée de récupération que nous avons amorcée avant même d'arriver à notre point d'arrivée. Donc, on va prolonger la détente et la récupération. Être attentif aux maux résiduels. On consulte le plus rapidement possible pour éviter que si on a des soucis physiques qui se chronicisent. Un apport riche en protéines, pour la réparation tissulaire, une bonne hydratation.
Alors, en terminant, les essentiels à retenir, qu'est-ce qu'on doit retenir à la fin du projet?
Le temps d'adaptation est l'aspect le plus important pour que nous puissions marcher sur de longues distances et sainement. Un apport nutritionnel en liquide et solide de façon continue pour travailler avec nos systèmes énergétiques et immunitaires, dont les protéines sont importantes pour la réparation tissulaire. Vous l'avez dit plusieurs fois, Denis, je demeure à titre de marcheur à l'écoute du moindre inconfort qui survient. Je le soigne rapidement. Je conclus en disant, dès aujourd'hui, osez marcher un petit peu plus, un peu plus longtemps, en sachant que le temps d'adaptation, c'est votre premier compagnon ou compagne de route. Bonne route.
Bonne route. J'ai quand même une dernière question.
C'est vrai?
Oui. Alors, je marche beaucoup. Je marche, vous savez, peut-être 10 ou 15 kilomètres par jour. Est-ce que j'ai vraiment besoin de toute cette préparation? Je me sens déjà bien équipé à partir demain.
Alors, partez après-demain.
Excellent, excellent. Karine, je rappelle que nos auditrices et auditeurs intéressés à entreprendre un pèlerinage peuvent participer à des ateliers dont vous parliez, des ateliers de marche offerts par l'Association du Québec à Compostelle. Il s'agit tout simplement de consulter le site duquebecacompostelle.org pour plus de détails. Encore une fois, Karine, merci beaucoup d'avoir partagé vos connaissances et prodigué de judicieux conseils pour une démarche saine et agréable lors de marches de longue durée. Et bon voyage aussi.
Merci.
Chers amis, c'est ainsi que se termine cet épisode de Marcher vers le bien-être. Nous espérons qu'il vous a plu. Je vous rappelle que Marcher vers le bien-être est diffusé les mardis à 22h et en rediffusion les mercredis à 11h, les vendredis à minuit et les samedis à 10h. Vous pouvez également écouter l'émission en direct sur le site Radio-VM ou grâce aux émissions archivées, ainsi que sur le site jemarchepartout.com où vous trouverez descriptifs et références pour chaque épisode. Vous pouvez aussi y laisser suggestions et commentaires à propos de cette émission. Merci beaucoup à notre invitée Karine Boivin pour ses nombreuses explications et conseils portant sur une bonne préparation à une marche de longue durée. Merci également à notre technicien toujours aussi joyeux, Valérian Fournier. Et bien sûr, merci à vous toutes et tous d'avoir été des nôtres pour marcher vers le bien-être. Je vous laisse avec cette pensée de Jean de la Bruyère. Il n'y a point de chemin trop long à qui marche lentement et sans se presser. Sur ce, je vous souhaite bonne route et à la prochaine.